Et aujourd'hui, les apprentissages sont mis à l'honneur sur RJB grâce à la journée de l'apprentissage. Pour nous en parler, nous recevons Cédric Bassin, directeur général du CEF, le centre de formation professionnelle Berne francophone. Cédric Bassin, bonjour.
Bonjour, plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors le CEF est l'établissement aujourd'hui le plus important dans le Jura bernois en ce qui concerne le domaine de la formation professionnelle. Il fête cette année ses 10 ans. Quel est le regard que vous portez sur ces 10 dernières années ?
Alors voilà, le CEF entre maintenant dans l'adolescence, il sort de l'enfance. Le CEF a été créé en 2010. C'était un travail important de réorganisation de la formation professionnelle, l'optimisation de la formation professionnelle ici dans la région. Ça a permis de créer des centres de compétences. On a 4 centres de compétences, santé sociale, industrie, artisanat et commerce, qui sont placés à différents endroits sur le territoire. Et puis, c'est une belle aventure et on se réjouit des 10 prochaines années.
Eh bien, donc 10 ans, est-ce que vous avez vu, par exemple, une augmentation des inscriptions ? Est-ce que la voie professionnelle plaît toujours face à celle académique ?
Les inscriptions sont relativement stables depuis les années 2012-2013. Le CEF compte environ entre 1700 et 1800 apprentis par année. C'est normal aussi que ces inscriptions soient stables, parce que le tissu économique, il est ce qu'il est. Et maintenant, on aimerait pouvoir augmenter ce nombre en attirant plus de jeunes vers l'apprentissage, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne le tissu économique et les entreprises qui, dans cette région, sont très très actives dans la formation, je tiens à le souligner par rapport à d'autres régions où elles le sont moins, ont toujours joué le jeu, ont toujours engagé beaucoup d'apprentis. Et c'est un plaisir pour nous de les accueillir au CEF, tous ces apprentis.
Et vous, comment vous faites au CEF justement pour peut-être attirer plus d'inscriptions, plus d'étudiants ?
Alors, on fait de la promotion évidemment auprès des écoles secondaires, où on a la chance d'être accueillis dans ces écoles secondaires pour aller se présenter les voies de formation professionnelles, les différentes possibilités qu'il y a. Aussi, quelque chose qui est très important pour nous, c'est cette perméabilité de la formation professionnelle qui permet à des jeunes de prendre une voie, de changer de voie en cours de formation. Et en tout cas, il n'y a pas des voies qui sortent dans une impasse. On a toujours la possibilité, dans la formation professionnelle, de changer de voie, voire d'aller plus loin, d'entamer des études supérieures.
Alors, il n'y a pas de voies qui sont dans l'impasse, mais est-ce qu'il y a des domaines qui attirent un petit peu plus les jeunes ?
Alors, ces dernières années, il est clair que le domaine santé sociale a attiré beaucoup de jeunes. Il y a aussi un grand besoin dans ce domaine-là. J'en profite pour dire que cette année, les inscriptions dans ce domaine-là sont encore pas très élevées parce que les institutions ont eu d'autres préoccupations jusqu'à maintenant. Donc, on se réjouit que cette crise soit terminée et qu'on puisse avoir des jeunes qui entrent dans cette voie de formation qui est très prisée.
Donc, en tout cas, dans le domaine santé sociale, vous voyez une petite baisse des inscriptions pour l'année prochaine.
On ne désespère pas. L'été
question.
Sera encore long. Des contrats vont arriver jusqu'à fin septembre. On les attend de pied ferme. En tout cas, nous, on est prêts.
Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. Un centre professionnel comme le vôtre, on imagine, doit sans cesse s'adapter aux nouvelles technologies. Comment vous répondez à ce changement ?
Dans le cadre de notre centre professionnel, on a lancé un grand programme d'établissement qu'on appelle DigiCEF pour répondre à ces changements qui sont des changements sociétaux profonds dans toutes les strates de la société. Et pour nous, ce qui est important, la digitalisation, c'est pas uniquement mettre une tablette ou un téléphone cellulaire dans les mains d'un apprenti, c'est au-delà que ça. C'est nous, en tant qu'enseignants, en tant que passeurs de savoir, dans notre core business, qu'est-ce qui change ? On a maintenant affaire à une population qui est plus la même qu'il y a 10 ans. Les élèves qui arrivent chez nous ont été exposés à ces technologies de la formation et de la communication dès l'enfance. Donc, ils ont peut-être une autre manière d'absorber le savoir. Et c'est à cela qu'on est en train de réfléchir. Et puis, on espère pouvoir apporter des réponses qui soient les bonnes réponses à l'horizon 2022-2023. C'est une réflexion de longue haleine. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été tentées sur le terrain dans d'autres centres professionnels, dans le nôtre. Mais de toutes ces expériences, il faut voir comment on va construire quelque part une nouvelle façon de passer le savoir à l'horizon 2030.
Et puis, on va en parler peut-être plus longuement après, justement, de la situation sanitaire en ce moment. Mais face à cette crise du Covid-19 et DigiSafe, donc c'est cette mise en place des technologies, on va dire, est-ce que cette crise permet d'accélérer un petit peu la mise en place de ces technologies ou au contraire, ça freine un petit peu?
Alors, comme je vous le disais, DigiSafe, c'est plus la réflexion sur notre métier de passeur de savoir. C'est pas seulement les technologies qui, elles, sont déjà présentes hein, dans les centres professionnels et dans l'autre en particulier. On a un service informatique qui a été agile, flexible et performant dans cette crise. Il a fallu équiper beaucoup des élèves, des enseignants de ces technologies. Et comme ces technologies étaient déjà là, quelque part, pour nous, c'était un challenge, c'est clair. Mais ça s'est fait relativement facilement. En tout cas, plus facilement que je l'imaginais tout au début. Et on a été très surpris par la facilité avec laquelle ce téléenseignement a été déployé.
Décibels sur RJB.
Et nous voilà de retour dans le cadre de cette journée de l'apprentissage avec Cédric Bassin qui est avec nous ce matin. Face à cette crise actuelle, votre établissement a dû fermer ses portes le 13 mars dernier à 17h, pour être bien précise. De quelle manière l'avez-vous vécu ?
C'est un sacré choc, hein. Vous n'êtes pas à la tête d'une école pour la fermer les bâtiments et puis dire à tous vos collaborateurs et à tous les élèves, écoutez, c'est fermé jusqu'à nouvel ordre, la suite on verra. Non, ça a été un sacré choc, on l'a géré du mieux qu'on pouvait, on a navigué à vue, comme on a l'habitude de dire, comme beaucoup de gens sur la planète finalement, on naviguait à vue. On a mis en place une hotline quand même, pendant ce week-end-là, pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations, toutes les questions qu'on avait, et je vous promets qu'il y en avait. Et puis après, comme tout le monde, quoi, on a vécu au jour le jour, quand c'est qu'on va rouvrir, comment on va rouvrir, dans quelles conditions.
Et de quelle manière, justement, en ce moment, l'enseignement s'organise ?
Alors, depuis la première phase de déconfinement, avec des entreprises qui ont pu réouvrir leurs unités de production, ce qui fait que des apprentis se sont retrouvés sur leur place de travail. Nous, on a eu une autorisation aussi pour réouvrir nos ateliers, c'est-à-dire pour la pratique professionnelle. On reste en téléenseignement pour tout ce qui est théorie, mais pour les apprentis du domaine industrie qui sont à l'école de métier, ils reviennent gentiment, je dis bien gentiment parce qu'on ne les a pas tous fait revenir en même temps, dans les ateliers, en respectant évidemment toutes les normes de sécurité, ce qui demande des protocoles qu'on n'avait pas imaginés. Je ne vous parle pas de la cafétéria, je ne vous parle pas des pauses, comment gérer tout ça. Et je pense qu'on est, tous à la même enseigne. Hein. Dans les entreprises, c'est la même chose. Quand les gens reviennent sur les lieux, il faut prévoir toutes les mesures nécessaires.
Et vous avez un retour des élèves par rapport à cette situation ?
Alors, on a un retour au niveau du téléenseignement. On a mis en place sondage peu avant Pâques, sondage qui court toujours. Actuellement, on a 900 élèves qui ont répondu à ce sondage. Je peux vous donner quelques chiffres de ce sondage. Alors, c'est vraiment en exclusivité hein, pour RJB. Je tiens à le souligner.
Merci beaucoup.
Puisque, voilà, ces chiffres viennent de tomber et c'est pas terminé. Hein. On continue ce sondage, va encore durer quelques jours. On a, comme je vous disais, 900 élèves qui ont répondu. On pose des questions, par exemple, est-ce que les élèves ont le sentiment de progresser dans ce dispositif de téléenseignement ? On a 45% des élèves qui estiment progresser. Donc, on voit que la moitié des élèves progressent, ce qui est un peu faible quand même. Hein, on s'attendait à plus. C'est aussi une quantité de travail qui est différente hein, pour les élèves. Ils ont beaucoup de sollicitations à travers ces médias électroniques, WhatsApp et tous les emails qu'ils reçoivent des enseignants. 64% de nos élèves estiment pouvoir gérer le travail. Le reste a un peu plus de difficultés. 64% aussi estiment que les leçons à distance sont variées et qu'ils ont l'impression d'apprécier participer. Et 70% ont le sentiment de participer, comme s'ils étaient finalement dans la salle de classe. Par contre, j'aimerais quand même souligner quelque chose, et heureusement finalement, hein, parce que l'être humain est un être social, on a quand même une majorité d'élèves, heureusement, qui disent, mes camarades me manquent. 67% des élèves disent que leurs camarades leur manquent, et 65% disent que les enseignants leur manquent.
Donc autant leurs camarades que les enseignants, voilà. C'est à peu près le même pourcentage.
Oui, c'est à peu près le même pourcentage, entre 65 et 67%. On constate aussi quand même que c'est pas facile d'être à la maison et de rester concentré sur le cours qu'on est en train de vous donner. Et 60% de nos élèves disent avoir des problèmes de concentration à la maison pour différentes raisons. Je vais pas entrer dans les détails. Et puis un chiffre qui est quand même encourageant aussi pour nous, c'est que 25% des élèves disent n'avoir aucun problème avec la technologie informatique pour se contacter, pour communiquer. J'ai pas le même chiffre pour les enseignants, mais pour les élèves, je peux vous dire que seul un quart des élèves du CEF ont des problèmes avec leurs ordinateurs ou avec la technologie, ce qui est assez encourageant pour nous.
Ouais, donc un sondage plutôt positif alors, de votre côté. En tout cas, dans l'état où il est maintenant.
Une forte attente du retour à l'école.
Ça, c'est sûr.
De tout le monde, des enseignants, des élèves, de nous, les membres de la direction. On se réjouit tous que les écoles puissent refonctionner normalement.
Et puis justement, en parlant de refonctionnement, de reprise, pour les examens, en quelques mots, comment ça va s'organiser pour la suite?
Alors, comme vous avez pu le lire, au niveau fédéral, il a été décidé clairement que tout ce qui était des examens écrits était annulé. Connaissances professionnelles, examens écrits de maturité professionnelle sont purement et simplement annulés. C'est les notes d'année qui vont faire foi. Et puis pour les examens pratiques, alors ça, d'une branche à l'autre, ça dépend. Le Conseil fédéral a fait une proposition avec 3 différentes options et chaque branche a pu choisir et faire des propositions par rapport à ces options. Donc on a, dans le cadre du CEF, différentes options qui ont été choisies dans différents cours de métier. Et je tiens à rappeler ici que les examens du CFC, c'est pas le CEF qui en est responsable, mais c'est bien les commissions des experts. Et ça dépend de l'office de la formation professionnelle directement. Nous, on met à disposition nos infrastructures, mais c'est pas nous qu'on gère directement les examens pratiques dans le cadre du CEF.
Eh bien, merci Cédric Bassin. On vous retrouve dans quelques minutes pour terminer cette heure ensemble. Donc, juste après un petit peu de musique.
Décibels. Sur RJB.
Toujours avec Cédric Bassin, directeur général du CEF. On va terminer cette interview avec une note un peu plus positive et en tout cas solidaire. On a vu il y a quelques semaines l'initiative d'une entreprise jurassienne pour créer des visières de protection à destination du personnel médical. Le CEF Lab a répondu présent et s'est lancé dans la conception de ces visières. Alors ma première question, expliquez-nous tout simplement ce qu'est le CEF Lab.
Le CEF Lab, c'est un concept qui nous vient des États-Unis. Le concept s'appelle Fab Lab. Nous, on a rajouté CEF devant. L'idée est de mettre à disposition de la population, de tout âge, un espace dans lequel ils peuvent venir créer et de leur mettre à disposition pour leur création de différents outils, notamment imprimantes 3D, tours, fraiseuses, on a un petit centre d'usinage, une découpeuse laser. Et il suffit de se mettre membre de cette petite association, d'être formé sur les différents équipements, et puis vous pouvez ainsi venir réaliser les idées que vous avez. Et je dois dire, dans la région, il y a plein de gens qui fourmillent d'idées en termes de construction mécanique, de dispositifs, et ils viennent très souvent tester les idées qu'ils ont dans le cadre de ce Safe Lab. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de succès, mais on est toujours évidemment... On est très content si plus de monde s'intéresse à ce Safe Lab. Donc là, je profite aussi de faire un appel. Si les gens se sentent créateurs dans l'âme et qu'ils ont des idées en termes de construction mécanique ou microtechnique, cet espace leur est destiné.
L'appel est fait. En tout cas, vous parliez de créativité. Donc, le Safe Lab a géré cette créativité, justement, en aidant à faire la fabrication de ces visières de protection. Est-ce que c'était important, dans cette situation, de mettre vos connaissances, finalement, pour le bien public, pour aider, pour, d'une certaine manière, apporter sa petite pierre à l'édifice?
Alors, c'était presque automatique. Je veux dire, tout le monde a participé aux chaînes de solidarité auxquelles ils pouvaient participer. Nous, la chaîne de solidarité, c'était cette demande, cette entreprise, en disant, vous avez des imprimantes 3D, est-ce que vous pouvez nous les mettre à disposition et commencer d'imprimer tout ça? Donc, j'ai eu un appel du responsable du Safe Lab, M. Beugli. Il me dit, voilà, j'ai cette demande-là, qu'est-ce qu'on fait? Et on a foncé, il était très motivé et il n'a pas eu besoin de plus de 20 secondes pour me convaincre. Nos imprimantes, elles étaient à l'arrêt. Évidemment, les bâtiments étaient fermés et lui, il était disponible pour faire fonctionner toutes ces imprimantes. Donc, c'était parti, on a lancé cette impression. Mais on n'est pas les seuls dans la région, des privés l'ont fait. D'autres écoles l'ont fait dans d'autres cantons. Je pense que, voilà, on a tous réagi comme on pouvait dans cette crise qui nous a tous surpris.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce matin, Cédric Bassin, pour répondre à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CEF, le Centre de Formation Professionnelle Berne Francophone. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci, à vous aussi.